Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Sur la série Recommencer. Et puis, j'ai eu bien du plaisir à préparer ce message-là pour vous et je souhaite que vous allez être aussi bénis que moi que je l'ai préparé. OK. Donc, recommencer. Père, je te prie que tu vas être avec ma bouche, Seigneur Dieu. Puis, comme tu disais, Seigneur, à tes prophètes, si vous savez séparer ce qui est vil de ce qui est sacré, on va être ta bouche, Seigneur. Dans la mesure, Seigneur, où ce que je dis est biblique et conforme à ton cœur, Seigneur, je te prie qu'il ne retourne pas à toi sans avoir effectué l'effet de féconder la terre de notre cœur, de l'avoir retourné cette terre-là et d'y avoir amené du fruit. Je te prie pour chaque personne qui écoute ce message. Premièrement, ceux qui sont ici, mais ceux qui nous écoutent aussi sur Internet, Seigneur. Je te prie que ta parole puisse faire un travail de transformation. Souvent, on l'entend couche après couche, cette parole-là, on l'entend couche après couche, mais on n'est pas nécessairement transformé. Aide-nous, Seigneur, à comprendre la transformation que tu veux opérer dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Alors, souvent, je pose la question, quand je regarde en arrière, lorsque je regarde à mes choix passés, je me pose la question, qu'est-ce que je pensais? Par exemple, prendre un prêt sur 5 ans d'une voiture qui va t'offrir 2 ans, tu sais? Puis faire endosser par ta belle-mère en plus. Tu pars dans la vie, tu sais, puis tu te dis, qu'est-ce que je pensais? Qu'est-ce que j'ai pensé quand que j'ai pensé que le péché était synonyme de liberté? Qu'est-ce que je pensais quand j'ai pensé comme ça? Quand je me suis lancé naïvement dans cette relation, pensant que le pire ne pourrait pas m'arriver, à quoi est-ce que je pensais? Sur quel nuage rose est-ce que j'étais? Tu sais, etc., etc. Lorsqu'on regarde le passé, il peut nous informer, mais il peut aussi nous déformer. C'est pour ça que c'est important que la série de recommencer est basée dans la grâce de Dieu, dans l'amour de Dieu, et d'essayer d'apprendre de notre passé pour nous faire mieux. Comme le vieux dicton qui dit « si jeunesse savait et vieillesse pouvait hein? ». On a déjà entendu ça. Avec ce que je sais aujourd'hui, si je pourrais recommencer, je ferais ça comment? Mais on en a plein de recommencements de toute façon. On n'a pas besoin de redevenir jeune. On est toujours confronté à des choses qui arrivent à leur terme puis qu'on est obligé de recommencer. Si j'étais plus jeune, si je pouvais recommencer avec ce que je sais aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Le plus grand atout que Dieu nous offre pour ne pas répéter l'histoire, c'est d'apprendre de l'histoire pour ne pas être condamné à la répéter. Quand vous regardez à votre passé, est-ce que vous avez changé? Certains d'entre vous pouvez dire, moi, j'ai changé pour le meilleur, je pense. Il y en a d'autres qui peuvent dire, j'ai changé pour le pire aussi. Est-ce que votre manière de voir a grandi? Quand vous pensez à votre début de vie chrétienne, qu'est-ce qui vous montre que vous avez maturé dans le Seigneur? Est-ce que ce n'est pas votre manière de penser? Puis si jamais vous avez régressé, vous pensez que vous êtes pire que vous étiez, est-ce que ce ne serait pas aussi votre manière de penser qui était à la racine de ça? Au début de la série, puis depuis le début de la série, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à date? On a vu, par exemple, dans le premier message, que des fois, on croit des mythes ou des fausses croyances. Par exemple, un des mythes qu'on avait vu, c'est « je n'ai tellement vécu, là, j'ai de l'expérience ». Comme si l'expérience, ça donnait de la sagesse. Mais en fait, l'expérience, ça nous rend plus fatigués, puis ça nous fait vieillir. Ça ne nous rend pas plus sages nécessairement. On a vu qu'on avait besoin d'avoir une expérience qui est validée ou évaluée. Comment est-ce que vous évaluez que vous êtes devenu plus sage par les expériences que vous avez vécues? OK, la réalité, c'est que l'expérience qui est évaluée qui vient faire la différence. Puis c'est vers là que je veux continuer aussi aujourd'hui. On a vu aussi dans mon premier message que si on sait mieux, on devrait être en train de faire mieux. En fait, savoir mieux. Des fois, ça fait juste un décalage entre ce que je sais et qu'est-ce que je devrais faire. Ça vient faire un genre de condamnation, si on peut dire, sur le fait que je le sais, mais je le fais quand même. Et on a vu que la réalité, c'est que savoir mieux, ce n'est pas suffisant, mais c'est savoir apprendre mieux, ou savoir mieux et apprendre des situations qu'on a vécues, qui va faire qu'on va vraiment grandir et qu'on ne va pas répéter le même, on ne va pas recommencer la même affaire. Un autre des mythes qu'on avait vu dans mon premier message, c'est que le temps est notre ennemi. Puis, la question qu'on doit se poser, c'est quand on a pensé comme ça et on a voulu faire les choses plus rapidement, quand on a voulu prendre le raccourci, est-ce que le raccourci, finalement, a été profitable pour nous? La réalité, c'est qu'on a vu que ça prenait du temps pour avoir de la clarté émotionnelle. Et tout ce que je suis en train de... Tout ce que je dis de mon premier message, c'est quelque chose qui va converger aujourd'hui vers... il y a comme 2-3 séries qui rentrent une dans l'autre, puis ça fait un petit bout de temps que j'ai, quelques mois que j'ai le goût de parler sur ce sujet-là. Il y a comme un entonnoir là, qui s'en vient. Ça prend du temps pour avoir de la clarté émotionnelle. Quand on est blessé, on fait des choix, on pense à nous. Quand quelqu'un a mal à la tête, il essaie d'y parler, il pense à lui-même. Quand quelqu'un est dans une douleur émotionnelle, qu'est-ce qu'il fait? Il pense à lui aussi. Une personne qui est blessée pense à elle. Elle ne pense pas à, nécessairement en dehors d'elle. Et donc, on a besoin d'avoir du temps. Et le temps est notre ami parce qu'on devient prêt, avec le temps, à entendre les réponses qu'on n'aurait pas été capable d'entendre au moment où ces choses-là nous sont arrivées. Mais le temps finit qu'à un moment donné, on est prêt à prendre la leçon, à entendre ce qu'on a à entendre puis à aller de l'avant. Et puis, le premier message, on avait terminé le premier message avec 2 attitudes importantes qui étaient à avoir. Une attitude, 1, de découverte qu'il y a une destinée, que Dieu est en train de faire une œuvre, et puis, j'ai le goût d'embarquer dans qu'est-ce qui a commencé. Donc, un esprit de découverte. Puis, la deuxième attitude qui était recherchée dans un recommencement, c'est l'humilité. Dieu est en train de faire quelque chose en moi. Puis je veux savoir qu'est-ce qu'il fait en moi. Puis je veux aussi dépendre de lui. Je veux apprendre à dépendre de lui davantage. L'humilité. 2 principes bien importants si on veut recommencer, puis on veut bien recommencer. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Puis comment je pourrais me joindre à ça? Puis qu'est-ce que tu es en train de faire en moi? Parce que tu utilises le beau et le laid, le méchant et le bon. Dans un monde déchu, tu es en train de faire quelque chose de bien. Puis on avait fini avec ce verset-là de Romains 8, 28 qui disait que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont établis selon son dessein. Puis ensuite, dans le deuxième message, on a vu qu'on a tendance à blâmer les autres pour ce qui ne va pas en nous. Exemple, tu poses la question à une personne qui a été blessée, tu lui demandes « Comment tu te sens? » Ben, je sens qu'elle n'avait pas à faire ceci ou cela. Qu'est-ce que la personne est en train de dire? Elle est en train d'aller à la source de sa souffrance, ce qui l'a causé en premier lieu. Elle est en train de pointer là, mais elle n'est pas en train de dire comment elle se sent. Elle a les regards à l'extérieur et elle rend quelqu'un responsable pour ce qu'elle sent. Puis on a vu dans ma série tout au long que une des phrases clés qu'on a dit, c'est qu'il faut apprendre à être responsable dans un monde déchu. Je ne suis pas 100% responsable de ce qui m'est arrivé, mais je suis obligé de recommencer. Puis je suis 100% responsable de ce qui se passe en moi aujourd'hui. Et le thème du message de la semaine passée, c'est qu'il faut arrêter de vivre en victime, puis il faut vivre en vainqueur. Puis la seule manière de recommencer en vainqueur, c'est de ne pas se faire une victime de ce qui m'est arrivé, mais de dire, bien, à cette heure que ça m'est arrivé, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment je vais construire à partir de là? Et donc, on est 100% responsable de ce qui se passe à l'intérieur de nous pour pouvoir mieux recommencer. Et donc, tout ce que je suis en train de dire converge vers une affaire, un entonnoir. Je vais allumer ma manette. Et ça converge vers ceci. À quoi est-ce que je pensais? À quoi est-ce que je pensais? Quels sont mes processus de pensée? Quels sont les idéaux que j'avais? Et ça nous amène à cette question-là ici, c'est à quoi je pensais? Les pensées sont l'endroit où tout se joue au niveau de ta victoire, de ta croissance. Et donc, on doit trouver une manière puis c'est pas la seule. Celle que je vais enseigner aujourd'hui, c'est pas la seule, c'est une parmi tant d'autres. Mais je vais quand même vous en donner une. Une manière d'examiner nos croyances et nos réflexions pour savoir, est-ce que j'ai grandi? Je suis en train de grandir? Est-ce que je veux grandir? Donc, c'est quoi le microscope, l'appareil que vous allez utiliser? Je m'en fous. Mais comment est-ce que vous utilisez une manière de savoir si vous avez grandi dans votre système de pensée, si vos références sont bonnes ou s'ils ne sont pas bonnes, puis si ces pensées-là sont tordues? C'est quoi votre mécanisme pour les identifier puis les enlever, pour les remplacer par la parole de Dieu? Écoute, il y a plein de versets. Proverbe 23:7 dit que l'homme est tel que sont ses pensées. Ce qu'on pense, c'est ce qu'on va manifester, c'est ce qu'on va être. Jean 17, il priait pour ses disciples, il disait, « Je te prie de les sanctifier par ta parole, ta parole est la vérité. » Jésus priait le Père de nous consacrer, de nous faire vivre pour sa gloire. Puis il disait, ils vont être mis à part du monde, ils vont être différents du monde, ils ne seront pas conformes au monde, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde, parce que je leur ai donné ta parole et ils l'ont gardée. Donc la parole, c'est ce qui vient nous aider à réfléchir et c'est ce qui vient nous séparer du reste du monde. Dans Philippiens 1:8, même l'amour, il dit que votre Philippiens 1:9, il dit que votre amour augmente en pleine intelligence. Les pensées, ce que je pense, c'est à la racine de mon amour, c'est à ma racine de ma consécration, c'est ce que je vais être dans le monde, c'est ce que je pense. 2 Pierre 3:18, sur un même pied d'égalité que de grandir dans la grâce de Dieu, c'est de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Pierre prend les deux, il les met ensemble et dit, « Croissez dans la grâce de Dieu et dans la connaissance de Jésus-Christ. » Ce qui se passe dans mon cerveau, la manière que je connais, c'est comme ça aussi que je vais vivre la grâce de Dieu dans ma vie. Jean 8, 32 qui dit, et au verset 36, « Vous connaîtrez ma parole, puis ma parole va vous rendre libre, Jésus dit. » Libre de quoi? Libre des faux raisonnements. Libre des patterns de pensée qui sont hérités de la chute. Libre des comportements de défense qui viennent du jardin d'Éden, d'un Dieu qu'on se défend. On a commencé à se défendre de Dieu quand Dieu a dit, « T'es où, Adam? J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. » Il y a des craintes qui ont entré dans notre cœur. Il y a des comportements, de mécanismes de défense qui sont entrés dans notre cœur. Puis ça nous tient esclaves. Parce qu'au lieu d'obéir à la vérité, qu'est-ce qu'on fait quand on tombe? Quand on a de la peine, quand on est choqué, quand on vit des émotions difficiles, on va se cacher derrière des comportements qui ne sont pas du tout la voie de notre Père. Et donc, Jésus disait dans Jean 8 que le père du mensonge était le diable, qui est un menteur depuis le début, mais que lui, ici, quand il viendrait, il donnerait la vérité, puis que quand on entendrait la vérité, on serait réellement libre, libre des mensonges. Quel est votre mécanisme pour identifier les mensonges qu'après ça, tu dis, qu'est-ce que je pensais? Quels sont ces mécanismes-là que vous avez? Quels sont mes raisonnements? Qu'y a-t-il de faussé dans mes croyances, mes réflexions ou mes attentes? Quels sont les domaines qui me montrent que j'ai vraiment besoin de grandir? L'expérience me montre, et je pense que c'est vrai pour vous aussi, qu'on ne grandit pas par accident. On grandit par intentionnalité. Et cette série-là est tout à propos de ça. De dire, OK, je veux grandir, je veux être 100% responsable de ce qui se passe en moi, et donc, ça n'arrivera pas par accident. Et ça commence ici. Ça commence avec ce verset-là ici. Romains 12, 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça commence ici. Ça commence par une demande qui a été dite après 11 chapitres de comment Dieu montre comment il est bon pour nous, tout ce qu'il a fait pour nous, que l'œuvre tout accomplie a été terminée pour nous. Après avoir tout connu les compassions de Dieu pour nous, la demande est de s'offrir comme un sacrifice, non un sacrifice mort, mais un sacrifice qui va vivre dans le monde. Un sacrifice qui va, après s'être donné à Dieu, va pouvoir discerner qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est la volonté de Dieu, c'est bon, c'est agréable, puis c'est parfait. Et donc, ça commence par ça. Puis offrir son corps est synonyme d'un culte raisonnable, où on aurait pu lire littéralement un culte de la raison. C'est-à-dire que tu amènes ton intelligence à Dieu. En offrant ton corps, tu t'approches avec ton intelligence puis tes processus de pensée et tu les apportes à Dieu, ces façons de réfléchir-là. Okay? Et donc, renouveler les anciennes pensées par de nouvelles pensées, ça continue avec un renouvellement de l'intelligence. Pas une amélioration des pensées nécessairement, mais un renouvellement. Des vieux mensonges qui laissent leur place à des nouvelles vérités qui sont plus conformes à la vérité, donc plus conformes à la réalité. Cet exercice-là se fait au moins en trois phases, puis les chrétiens, souvent, on va rester à la première phase qui est le contact régulier avec la parole de Dieu. Donc, on est en contact avec ce qui est nouveau, on reçoit des pensées, on lit notre Bible, on a des pensées du jour, on écoute des prédications, on est absorbé par la vérité de Dieu. Okay? Puis c'est important parce que le livre de Romains va dire, en ne connaissant pas la justice de Dieu, ils ont tenté d'établir leur propre justice. Si je ne connais pas la justice de Dieu, pour moi, ce qui est juste, je vais l'établir moi-même. Mais plus que je suis une personne qui connaît la Bible, qui la lit, puis qui prend le temps au travers de cette lecture-là, plus que je ne vais pas établir ma propre justice, plus que je vais comprendre la justice de Dieu. C'est important. Telle voie, Proverbe 14-12, telle voie paraît droite à un homme, mais l'issue, c'est la mort. Toi, tu es là, je suis en train de recommencer, mon ami, je fais des choix, oui, mais tu penses que ton choix est juste, mais la fin, c'est la mort. Mais ça ici, c'est tellement important d'être en contact avec ce qui est nouveau, parce que la seule manière qu'il peut y avoir un renouvellement des pensées, c'est si je suis en contact avec ce qui est nouveau, ce qui est pur, ce qui vient d'en haut. Donc, c'est sûr que ça, c'est important. Puis ça, ce n'est pas là que je vais me concentrer trop. Parce que je pense que si vous êtes ici à matin, c'est parce que vous savez que c'est important de s'exposer à la Bible puis à l'enseignement de la parole de Dieu. Par contre, là où ce qu'on a besoin, je pense, de grandir, puis je la fais aussi pour moi, cette série-là, c'est ça prend aussi un constat des pensées qui dirigent ma vie. Hein? Le constat, je dois constater qu'est-ce qui dirige ma vie. Si on a vu que les pensées, tel un homme il est, telles sont ses pensées, que nos pensées sont un principe directeur de notre vie. Donc, quelles sont les pensées qui dirigent ma vie? Est-ce que je crois des mensonges? Est-ce que mes ententes sont irréalistes? Est-ce que c'est basé dans la réalité? Eh bien, je dois faire un constat. Et puis, ma norme, c'est la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est un constat des pensées qui dirigent ma vie. Troisièmement, je dois choisir de laisser les pensées de Dieu diriger ma vie. Et le gros problème, c'est qu'on en reste à un. Bientôt, le printemps va arriver, hein? Il n'y aura plus de neige, ça va fondre, cette affaire-là. Alors, regardez ici, qu'est-ce que ça dit. Afin que, puis là, après avoir cette offert à Dieu dans un culte de la raison, un culte raisonnable, puis après avoir été renouvelé dans nos pensées, on est capable, tout ça va nous donner la capacité de discerner c'est quoi la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais voir ce qui est bon, je vais voir ce qui est agréable, je vais voir ce qui est parfait à faire. Simplement parce que je vais avoir laissé les vieilles pensées qui dirigeaient ma vie être remplacées par les pensées de Dieu. Puis je vais aussi avoir fait le choix. On appelle ça la repentance, c'est un changement d'attitude mentale. C'est que je vais avoir changé mes pensées pour celles de Dieu. Bon, quand on arrive au printemps, certains d'entre vous, vous allez devoir repeinturer votre balcon. Certains l'ont peinturé, d'autres ils l'ont teindu. Moi, je le teins. Mais dans ce cas-là, ici, dans le fond, qu'est-ce qui arriverait si je peinturerais à nouveau? Je le peinture, puis là, Colin, l'année d'après, ça décale cette affaire-là. Puis là, je le repeinture, puis l'autre année d'après, ça écale encore. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oui, il faut que j'enlève les écailles, il faut que je le strippe, il faut que je le sable, il faut que je l'amoche, il faut que je prépare la surface d'une certaine manière. Eh bien, c'est ce que Dieu a dit à Jérémie dans Jérémie 1:10. Il dit, « Je t'établis afin que tu détruises, que tu arraches, afin que tu bâtisses et que tu sèmes et que tu construises. » Donc, ça prend le processus de dire, « C'est quoi qui dirige ma vie? qu'est-ce qui est ancien, qui n'est pas le bon fondement sur lequel je suis en train de m'appuyer, puis qu'est-ce que Dieu dit dans ce domaine-là, et donc c'est quoi mon mécanisme que je prends pour ça. OK? Donc, s'exposer au message, lire ma Bible à chaque jour, entendre des vérités, puis les mélanger avec ce que je crois, sans jamais me repentir, ça fait ça. Ça fait beau pour la première année, tu sais. Puis là, on s'est à y revenir, puis on y revient. On revient dans les mêmes choix. Ça écale encore cette affaire-là, on remet encore de la vérité là-dessus. On remet de la vérité là-dessus. Mais il n'y a pas la reconnaissance du mensonge, puis qu'est-ce qui était un mauvais schéma de pensée. Fait qu'on revient et c'est toujours à y recommencer. Je vous propose d'explorer un petit peu la partie 2, qui est de constater les pensées qui dirigent notre cœur, et 3, de changer nos pensées pour celles de Dieu. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, j'aimerais vous encourager à utiliser l'écriture d'un journal. Mettre par écrit vos pensées. D'abord, si vous n'êtes pas capable de le mettre par écrit, c'est que vous n'avez pas formulé totalement votre pensée. Donc, c'est un très bon exercice. Ça va vous aider à connaître vos propres pensées. Et donc, pour m'inspirer, j'ai été en contact avec des écrits d'une femme qui s'appelle Anne Voskamp, qui est un auteur best-seller du New York Times, mais qui est vraiment évangélique dans sa façon d'écrire. Et j'ai commandé d'elle un livre qui s'appelle « The Broken Way ». Et elle dit dans son livre, puis j'ai vu quelques entrevues télévisées avec elle hier, elle dit « Dieu utilise ce qui est brisé en nous pour nous amener à la plénitude. » Puis elle, quand elle était adolescente, elle a vu sa sœur se faire frapper par le tracteur de ferme dans sa cour. Puis son père, il dit qu'il a arrêté de vivre ce jour-là. Puis sa mère est devenue psychiatrisée, dans le fond. Fait qu'elle a vécu tout le reste de son adolescence dans un traumatisme. Puis elle n'a pas l'air détruite par ça. Puis j'écoutais qu'est-ce qu'elle enseignait, qu'est-ce qu'elle partage dans son livre, et j'ai dit « waouh, c'est beau ça, il y a des belles prémices ici de voir comment elle maîtrise mieux le sujet que moi concernant le journal, écrire un journal. » Ça fait des années que j'ai commencé ça, mais elle me semblait plus rigoureuse que moi dans cet exercice-là. Et donc, je me suis fié sur un article des 8 raisons. J'ai pris les sous-titres, puis j'ai rempli ça avec des versets, puis avec ce que... Donc, ça va être influencé par les écrits, un petit article de Anne Voskamp. Première raison, est-ce que vous avez chaud? Est-ce que vous êtes bien? Y en a-t-il qui ont trop chaud? Vous êtes bien? OK. Il est vraiment bien placé. Est-ce que je pourrais avoir de l'eau? Soyez bien aimable, quelqu'un, de m'apporter de l'eau. OK, donc la première raison qu'elle avance dans son article, c'est que ça nous permet d'enlever nos masques avec Dieu. Dans le psaume 38 au verset 10, le psalmiste dit « Seigneur, tu connais tous mes désirs et mes soupirs ne te sont pas cachés. » Enlever nos masques. Comme quand tu arrives du travail, puis tu enlèves tes vêtements de travail, puis tu t'embarques dans du mou. Pour les femmes, c'est tu enlèves ton maquillage, puis tu te sens juste tes biens tels que tu es. Tu te sens totalement confortable devant celui qui ne s'attend pas à une performance et qui t'aime peu importe. Qui t'aime peu importe. Et donc, quand on écrit, on met sur notre cœur notre âme. Pas de fanfare, pas de trompette, on n'a personne à impressionner. Il n'y a pas personne qui va être déçu. C'est comme une fois, je suis venu en janvier et j'ai dit que je ferais de troubles saisonniers. Puis après, tu dis tes faiblesses comme ça, tu sais. Puis après, tu sais, tu dis, je vais enlever mon masque, je vais créer une culture de vulnérabilité à l'Église, tu sais. Comme ça, les gens... Parce que je crois vraiment que le plus proche chemin entre deux personnes, c'est le brisement. C'est-à-dire quand les gens sont capables de se voir dans leur vrai état, dans leur faiblesse, dans ce qui est brisé en eux, puis qu'ils sont aimés quand même. Fait que j'avais dit, regardez... c'est une période difficile pour moi, tu sais, fait que j'étudie sur la santé émotionnelle. Tu sais. Puis la personne avait quitté là, quelques semaines après pour me dire qu'elle avait besoin d'un pasteur, un dirigeant, tu sais. Pas quelqu'un qui sentait faible émotionnellement. Tu sais. Mais devant Dieu, On peut pas. Puis c'est ça, ce qui arrive, c'est que quand tu sors tes faiblesses devant les hommes, des fois, les hommes reprennent ces faiblesses-là contre toi après ça. Puis tu dis, oh là là, tu sais. Mais je crois vraiment que c'est quand même le chemin de la vulnérabilité qui est le meilleur chemin à prendre. Mais devant Dieu, tu peux paraître tel quel, puis il dira, bon, non. Tu penses pas ça. Tu peux mettre sur papier ton âme, tu peux mettre tes rêves, tu peux aussi mettre tes péchés, tes célébrations et tes échecs. Une autre affaire que ça fait de tenir un journal, c'est que ça nous montre où le Saint-Esprit agit dans notre vie. Donc, on veut voir si on grandit. Bien, c'est une bonne façon, le journal, parce que c'est quelque chose qui va rester, c'est quelque chose que tu vas pouvoir relire, tu vas pouvoir dire, c'est quoi je pensais dans le temps? Et donc, c'est une très bonne façon de voir où le Saint-Esprit agit dans nos vies. Richard Pease, qui est cité dans cet article-là, il a écrit « A spiritual journaling ». Il dit « Tenir un journal aide la pensée à se concentrer sur la croissance avec le but de discerner ce que Dieu fait dans notre vie. En utilisant un journal, nous entrons en contact avec le bistouri de la croissance, ces domaines où il y a un soupir ou un désir, ces endroits où le Saint-Esprit semble le plus actif. » Je me suis posé la question quand j'ai lu cette citation-là. Je dis, parce que hier, justement, je réfléchissais à ça, puis je disais, Seigneur, on s'approche de toi parce qu'on a des besoins. C'est nos besoins qui nous font aller à Dieu. C'est l'absence de paix, c'est la tristesse pour être consolé, c'est les erreurs qu'on a faites, puis il faut tout remettre ça ensemble. C'est la crise qui nous ramène à Dieu. Dans un monde possible où l'homme peut faire le contraire de ce que Dieu permet, puis que l'homme est libre de ne pas aimer Dieu puis faire autre chose, c'est la souffrance qui est un des outils les mieux utilisés ou le plus utile pour choisir de revenir à Dieu. Et donc, c'est un endroit où ce que le Saint-Esprit est utile. Parce que quand tout est comblé dans notre vie, quand tout roule dans notre vie, est-ce qu'on est vraiment là au pied de Jésus? Pour dire, hey, sais-tu quoi, j'avais besoin de rien aujourd'hui, je voulais juste te voir. Au début, on aime Dieu à cause de ce qu'il fait pour nous. Puis après ça, on l'aime parce qu'il a fait quelque chose en nous. Après ça, on l'aime pour qui il est. Puis finalement, on l'aime même s'il nous écraserait. Mais il y a une évolution dans cet amour-là de se livrer à ce Dieu-là. Puis le Saint-Esprit est très actif en nous quand, désespéré, on a besoin de se tourner vers un plus fort que nous. Donc, quand on examine nos carences devant Dieu, quand on regarde c'est quoi qui nous manque dans notre vie, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on répète toujours, puis on vient toujours à la même case départ, bien, c'est quand même là que le Saint-Esprit est actif, parce que c'est là qu'on arrête de fonctionner sur notre gaz. On a tout essayé. Pourquoi on recommence tout le temps? Pourquoi on recommence? Pourquoi on revient toujours là? C'est parce qu'on a besoin d'aide. Et là, à cet endroit-là de l'Écriture, Dieu veut nous rencontrer. Parce qu'il est très actif, là. Parce que c'est des endroits où il y a un désir, c'est un endroit où il y a un soupir pour ressembler un peu plus à Christ. Parce que c'est ça que Dieu a mis dans notre cœur. Troisièmement, la tenue d'un journal nous aide à fortifier d'autres disciplines. C'est un bon moment pour vérifier comment est-ce que vous réussissez à adopter un nouveau comportement. Vous voulez recommencer, ça doit être supporté, ça. Par une évaluation. À l'école, on étudiait, puis on faisait des devoirs qu'on savait qu'ils étaient attendus de nous. Ça compte-tu, ça? Il va-tu avoir une note pour ça? OK, ça va être dans l'examen. Oh, on tombait très attentif parce qu'on savait que ça serait évalué de nous. Mais quand on veut changer quelque chose, l'évaluateur, c'est nous. On n'est pas placé sous quelqu'un d'autre qui examine notre vie. On s'examine nous-mêmes pour savoir si ce qu'on a dit qu'on ferait, on est en train de le faire, puis si on a dit qu'on ne ferait plus, puis qu'il faut vraiment que ça change à cet endroit-là, parce que je ne veux pas que ça soit perpétuer mon passé, bien, l'évaluateur, c'est moi. Puis la manière de le faire, c'est qu'il faut, d'une certaine manière, je me passe en revue moi-même pour dire, je fais-tu qu'est-ce que j'avais dit que je commencerais à prendre des vitamines? Est-ce que j'en prends? Donc, ça l'aide dans des nouvelles disciplines pour apporter un changement soutenu. Donc, c'est un bon moyen de vérifier comment est-ce que je réussis à adopter mon nouveau comportement, parce que les habitudes sont difficiles à changer. Okay? Et comment est-ce qu'on peut dire qu'une personne est digne de confiance? Comment on fait ça pour dire cette personne-là est digne de confiance? Comment on fait ça? On trouve ça comment, une personne qui est digne de confiance? On l'évalue? Oui. Sur quoi? Sur quelle base? Oui. Ah, OK, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Puis si je lui ai demandé quelque chose, est-ce qu'elle m'a dit qu'elle le ferait, elle ne le fait pas, éventuellement, il y a une confiance qui est bâtie. Puis à un moment, tu n'as même pas besoin d'y penser. Elle te l'a dit, elle va le faire. Elle est fidèle. Elle l'a dit, elle le fait aussi. Bien, quand on perd confiance en quelqu'un, on perd confiance dans sa capacité de vivre à la hauteur de ce qu'elle nous a projeté ou de ce qu'elle nous a dit, hein? Eh bien, on perd confiance en nous de la même façon. C'est-à-dire que si je me dis « Ah, je vais faire ça », mais je ne le fais pas. Si à chaque fois je dis « Ah, je vais faire ça, je vais recommencer ça, ah, je vais faire ça, là, ça va être différent. » Puis là, tu dis ça, puis tu ne le fais pas. Puis tu reviens toujours dans la boucle de recommencer, toujours les mêmes affaires. Tu vas faire quoi? Tu vas perdre confiance dans ta capacité à faire ce que tu aimerais faire. Tu vas dire « C'est bien beau, là, les résolutions, là, mais à chaque fois que je n'ai pris, je ne les ai jamais apportées plus loin. » Et la perte de confiance en soi-même va éventuellement affecter ma marche avec les autres puis ma marche avec Dieu, parce que les choses que je vais promettre aux autres et à Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut perdre confiance en soi? On ne fait pas ce qu'on dit qu'on ferait, et notre confiance diminue de plus en plus que nous sommes indisciplinés. Et il y a une beauté à redécouvrir que je peux avoir confiance en moi à cause d'un simple suivi de ce que j'ai dit que je ferais, puis la satisfaction de dire « je l'ai fait ». Il y a aussi une satisfaction de dire « tu ne pensais pas que tu avais grandi, mais quand tu as relu ton journal, tu dis « tabarouette, c'est ça que je pensais, j'ai vraiment changé ». Parce que tu as gardé une trace, tu es l'évaluateur, tu es celui qui peut l'apprécier aussi. Et il y a une fierté dans ça. Proverbe 13, au verset 12, dit « Un espoir différé rend le cœur malade. » Si tu penses que tu vas recommencer et ça va être différent, mais tu ne t'y appliques pas à faire ce changement-là, ton espoir est redifféré à plus tard, ton cœur devient malade. Mais un désir satisfait est un arbre de vie. Un désir qui est satisfait est un arbre de vie. Quelque chose que tu peux dire « Checked, c'est fait, je continue. » Ça fait 2 mois, j'ai pris cette habitude-là que je veux lire maintenant à chaque jour. C'est le matin, sinon le soir, je dors dans ma Bible. Bien, check, c'est fait, puis je le suis régulièrement. Donc, le journal de ce qui se passe dans ma vie de pensée, de garder ça de façon régulière, me permet d'avoir un arbre de vie. C'est nourrissant. Jésus a dit, quand les disciples ont dit, « Hey, tu n'as pas mangé », les autres sont allés chercher un lunch. Lui, il parlait avec la Samaritaine, il avait passé des heures sans manger. Puis Jésus dit, « J'ai pas faim. Ma nourriture, c'est de faire ce qui plaît mon Père. » Faire ce qu'on sait qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on devrait faire. Si on sait que ce qu'on est en train de faire, ça honore le Père, bien, ça nourrit notre âme, ça. Un désir satisfait est un arbre de vie. Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et je pense qu'on peut tous dire la même affaire et regagner une fierté personnelle parce que simplement, on est discipliné puis on surveille ça. C'est une manière de visualiser nos raisonnements. Qu'est-ce que je pense? Et continuer plus loin, puis on peut dire, et on peut le mettre par écrit, OK, on met par écrit tout ce qu'on pense. Même si c'est complètement déraillé, tu peux le dire. Je l'haïs! Tu peux tout écrire. OK? C'est pas grave, ça. C'est pas ouais, mais c'est pas vrai, dans le fond. C'est pas vrai. Je le dis, là, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu penses? Écris-le, puis après ça, tu te diras si c'est vrai ou pas. Mais commence par l'écrire. Là. Écris qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu penses. Puis ensuite, prochain paragraphe, écris qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu pense. Donc, tu commences par ventiler toute la dent dans toi. Là. Premièrement, vient le naturel, puis ensuite le spirituel. Et puis, qu'est-ce que Dieu dit, puis après ça, lequel des deux je crois? Là, tu es en train de reconnaître qu'est-ce qui dirige ta vie, tes pensées. Qu'est-ce qui devrait diriger ta vie, le nouveau? Puis là, il y a un sablage à faire. Il y a un scrapage de peinture à faire pour dire, c'est quoi, écris-le sous une forme de prière. Mais d'habitude, quand ça arrive, je pense ça, alors que je sais que c'est ça que Dieu pense. Seigneur, tu peux le faire sous une forme de formulation. Puis tu peux l'écrire simplement sous forme de prière et remplacer ce que tu croyais par la nouvelle peinture. Scrape l'ancienne. reconnais devant Dieu que cette façon de penser-là est mauvaise parce que... Puis fais une confession à Dieu de l'ancien. Puis demande-lui de t'aider à croire quand ces choses-là arrivent, quand que ces pensées-là reviennent. Aide-moi à croire telle chose qui est plus conforme à ton cœur. Et l'écriture que tu vas avoir faite, tu dis, ah, mais pas besoin, moi, d'écrire ça. Ouais, sauf que le changement, lui, il a besoin d'être renforcé. Parce que toi, tu viens de faire un changement. Tu viens de décider, là, que maintenant, tu ne penserais plus ça. Sur le feu de l'action, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore revenir à Adam. Tu vas encore revenir à l'ancien. L'ancien, il y a encore des galettes qui sont là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne veux pas recommencer à nouveau ton processus de pensée? Tu as déjà fait un travail avec Dieu sous le sablage. Retourne là. Retourne là. Et l'écrit te permet de faire ça puis dire, hey, c'est vraiment un pattern qui se répète. Puis souvent, les gens voient qu'il se répète quelque chose dans nos vies, mais nous, on ne le voit pas qu'il se répète quelque chose dans nos vies. Mais quand on commence à faire cet exercice-là, on le voit avant les autres. Parce qu'on apprend à se connaître nous-mêmes. Et donc, mettre ma foi dans cette vérité-là, puis revenir, ça va me permettre de renforcer ces décisions-là que je prends de changer de façon de penser. Faites un train de pensée. Qu'est-ce qu'un train de pensée? Ça pourrait être... j'ai pris ça à cause que c'était une image comme des wagons qui sont attachés après l'autre. Il y en a-tu qui ont la Bible Thomson Chain? Il y en a-tu qui savent c'est quoi la Bible Thomson? OK. Est-ce que vous savez c'est quoi quand je dis les chaînes de sujets? Oui? Oui, il y a des numéros. Ça te montre toujours le prochain thème, la prochaine fois que cette vérité-là est dans la Bible. C'est le fun parce qu'ils ont tout attaché les vérités ensemble comme ça. Puis à la fin, tu as un index avec un thème, puis tu vois toutes les pages où ce thème-là est abordé. Très intéressant comme façon de penser. Donc, à la page 32 de mon livre, j'écris « Seigneur, je me suis senti rejeté », puis là, je commence à écrire sur le rejet, je me mets un petit tag en haut. Puis, plus tard, dans ma communion avec Dieu, ce n'est pas quelque chose que j'ai ressenti, c'est un enseignement ou une lecture que j'ai fait sur ça. Et on me dit ici que le sentiment de rejet est une forme d'orgueil caché ou blessé. Donc, ici, j'ai mis 32. À page 102, j'ai mis 32 ici. Ça me montre que la dernière fois que j'ai réfléchi sur ce sujet-là, soit c'est quelque chose que je vivais, soit c'est quelque chose que j'avais lu, je peux retourner, puis à la fin complètement, j'ai un train de pensée. OK? Donc, mes wagons sont 32 et 102. Et que ça me permet de suivre l'historique un petit peu de qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que j'ai réfléchi, mes réflexions que j'ai faites, parce que, ah, c'était-tu bon, hein, ce message-là? Ah oui, ça m'a vraiment aidé. En quoi? Mais c'était bon. Ah oui, je me rappelle d'une image. Mais ce n'est pas devenu une conversion. Ça n'a pas été converti et appliqué dans un processus de réflexion après ça. Donc ça, ce que ça nous permet de faire, c'est de travailler intérieurement sur les vérités qu'on a apprises de Dieu, des temps qu'on a eus dans notre communion avec Dieu. Puis ça a renforcé des nouvelles habitudes de pensée. Ça permet de savoir si je suis revenu à croire les mensonges que je croyais avant. Ça me permet aussi de réaliser si j'emprunte les anciens comportements. Et ça me permet de voir si je suis balancé dans ma vie. Il y a une femme qui s'appelle Anne Morrow. Elle a écrit un livre, « Gift from the Sea », un don de l'océan. Et elle a écrit sur le sujet de tenir un journal. « J'ai commencé ces pages pour moi-même, dans le but de réfléchir à mes propres patrons de pensée, la balance de ma vie entre le travail et les relations humaines. » Donc, cette dame-là, elle dit, « Garde, c'est pour moi que je le fais. » On pourrait dire, c'est pour s'approcher de Dieu, c'est pour être plus comme Christ, mais elle dit, « Non, je le fais pour voir, je suis une personne qui est balancée. » Puis, elle a écrit ceci. J'ai un petit écriteau que j'ai trouvé ce matin. « I must write it all out. » Je dois tout l'écrire, à n'importe quel prix, parce que écrire, c'est réfléchir. C'est plus que vivre, qu'elle dit, parce que c'est d'être conscient que je vis. Ah, intéressant. Regardez ici dans les Proverbes ce que ça dit. Les projets dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Proverbes 20, verset 5. Les projets, ou dans la seconde, c'est les desseins. C'est quasiment comme les buts ou les objectifs dans le cœur d'un homme. Ils sont comme des eaux profondes, mais l'homme intelligent, il sait où est-ce que ça mord. Il sait comment aller chercher son poisson là-dedans. Et donc, intéressant. c'est une manière de cultiver l'honnêteté et une authenticité profonde. Je vais lire quelque chose en anglais que je vais le traduire au fur et à mesure. Soyez patients avec moi. L'auteur du livre Ordering Your Private World, Mettre de l'ordre dans votre monde intérieur, Gordon MacDonald, il dit, quand j'ai commencé, c'était difficile. J'étais très conscient de moi. J'étais inquiet que si je perdrais le journal ou que quelqu'un le regarde, qu'est-ce qui arriverait si... J'avais peur que quelqu'un regarde à l'intérieur et voit ce que j'avais écrit. Mais tranquillement, la conscience de moi a commencé à pâlir et je me suis retrouvé à écrire davantage dans mon journal les pensées qui coulaient dans mon esprit. Dans le journal sont venus des mots pour décrire mes sentiments, mes peurs, le sentiment de faiblesse, mes espoirs, mes découvertes à propos de Christ et comment Christ me conduisait. Quand je me sentais vide ou en défaite, je parlais de cela dans mon journal. Tranquillement, j'ai commencé à réaliser que le journal m'aidait à devenir, à avoir une mainmise sur une grande partie de ma vie intérieure que je n'avais pas été honnête avec. Non, je n'avais plus peur et je n'avais plus de lutte intérieure parce que maintenant, j'avais des défis. Je n'avais plus de peur ou de lutte sans mots ou sans définition. Il dit, quand ils faisaient surface, ils étaient définis et je pouvais les confronter. Gordon MacDonald, Ordering Your Private World. Quand vous avez de l'anxiété dans un domaine, que ce soit par exemple dans les finances, c'est que vous ne possédez pas votre monde. Vous n'êtes pas en contrôle de votre monde. L'anxiété montre, c'est une émotion qui vient de la chute, qui nous montre qu'on ne sera pas suffisant. Dans les finances, c'est « je ne sais même pas toutes les billes qu'il faut que je paye, je ne sais même pas si je suis à jour, je ne sais même pas si j'ai assez les revenus, je ne sais même pas si je suis en train de manger au restaurant, si je pourrais me le permettre. Je ne maîtrise pas ce monde-là. » Et parce qu'il n'est pas maîtrisé, il y a une anxiété qui est là. Bien, c'est vrai aussi dans l'anxiété dans le domaine des tâches à faire. Si tu as plein de tâches, tu as dit que tu ferais ci pour quelqu'un, tu as dit que tu ferais ça pour quelqu'un, puis là, c'est toujours les gens qui te rappellent pour te rappeler que tu avais dit que tu leur ferais ça pour eux autres. Il y a une anxiété qui vient quand tu n'es pas sûr que tu vas avoir tout le temps ou que tu connais toutes les tâches que tu devrais être en train de faire. Et il y a une anxiété qui est là. L'anxiété dans le domaine émotionnel, c'est je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne sais pas nécessairement c'est quoi. Et donc, je ne sais pas comment agir de façon responsable avec ce que je ressens. Et donc, plus il y a des mots qui identifient ce que je vis, parce que j'ai appris à être intelligent, même que votre amour augmente en pleine connaissance, Philippiens 1:9. Plus je suis capable de mettre des mots sur qu'est-ce que je suis en train de vivre, plus je peux les amener puis comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer puis les amener à l'obéissance, mes émotions à l'obéissance, prendre toutes les pensées captives puis les amener à l'obéissance de la connaissance de Christ. Et moins j'ai d'anxiété. Parce que quand mon monde n'est pas sous contrôle, je sais quand même le nom de cette chose-là qui me fait souffrir. Plus il y a des mots sur ce qu'on vit, moins on vit d'anxiété par rapport à notre monde intérieur. Donc, c'est une bonne manière de cultiver notre honnêteté et une authenticité profonde. Troisième avant-dernier point, c'est la manière de voir Dieu dans le noir. Les psaumes sont remplis de paroles sombres. Vous lisez ça, il y a de l'envie, de la jalousie, il y a quasiment du meurtre. Tu sais, David, quand il écrit, « Écrase-les, prends leurs enfants, jette-les sur la roche. » Tu sais. Qu'il ne reste pas de survivant. Tu sais, tu vois, toutes les émotions sont passées dans la prière. Tu sais. C'est noir. Mais souvent, c'est rare qu'il n'y ait pas une découverte de Dieu dans la prière. C'est une façon de formuler des prières. Parfois, quand il fait trop noir, tu n'es même pas capable de prier à Dieu. Tu t'isoles des autres, puis tu t'isoles de Dieu même. Au lieu de dire, « Regarde, là, je ne sais même pas par où commencer. » Écris. Puis après ça, tu la liras, ta prière, au pire, si tu dis que tu n'es pas capable de prier. Donc, des fois, c'est le seul moyen de prier. Psaume 38:10 qu'on a lu au début, « Seigneur, tu connais tous mes désirs et mes soupirs ne te sont pas cachés. » Donc, On voit les psaumes, des plaintes, des parties ténébreuses, mais on finit par voir une vérité sur Dieu et sur sa nature. Je pense juste au psaume 73, tu sais, qui dit hey, « Moi, je suis un croyant, tu sais, puis je souffre, mais ceux qui renient ton nom, eux autres sont riches, puis ils n'ont jamais de problème. Tu » sais, puis si je dirais que je voudrais être comme le monde, bien, dans le fond, je serais un traître envers toi. Fait que c'est comme je ne suis vraiment pas dans une position. Il se plaint vraiment de Dieu et de sa position. Tu sais. Puis à la fin, il dit, ah, il dit, j'étais comme un animal qui réfléchissait sans Dieu. Puis il dit, quand j'ai rentré dans tes sanctuaires, Asaph, il dit ça au psaume 73, vers le milieu, il dit, quand je suis rentré dans tes sanctuaires, là, j'ai compris. Hey, il écrit. Il écrit toutes les ténèbres de son cœur, puis à un moment donné, ting, lumière. Ça nous permet de voir Dieu dans le noir. Ça nous permet de se rappeler sa bonté. C'est aussi une manière de laisser un héritage. Vous savez, peut-être que vous ne voulez pas que les gens lisent votre livre pendant votre vivant, mais peut-être que votre petit-fils va voir vos luttes, votre recherche de Dieu, puis il va trouver un livre qui... c'est fou. Moi, je veux dire, ça meurt avec moi. Je veux dire, il y a deux mots de passe, puis ça va mourir avec moi. Mais ce que je veux dire, c'est une bonne façon. Il peut y avoir un livre où c'est la recherche de Dieu, là, que ce n'est pas les choses les plus ténébreuses de ton cœur, que tu ne voudrais jamais même pas que personne lise. Mais ça peut être ton étude de la Bible sur des sujets bien particuliers. Puis ton fils, ta fille, un jour, qui s'est éloigné du Seigneur, va vouloir, lui, garder le contact avec toi d'une certaine manière, se souvenir de qui tu es, de ce que tu as pensé. Puis là, il va tomber là-dessus. Puis il va voir que tu cherchais Dieu. Puis peut-être que c'est ça qui va l'amener elle-même ou lui-même à Jésus. Dans le psaume 102, au verset 18, « Dieu met par écrit des prières. » Pourquoi? Pour les petits-enfants. Pour que ceux qui ne sont pas encore nés voient que ces prières-là vont avoir été écoutées. Il est attentif à la prière de celui qu'on a dépouillé. Il ne méprise pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future, en anglais, c'est que cela soit écrit pour cette génération qui n'est pas encore née. Et que le peuple ainsi créé célèbre l'Éternel, car il regarde du haut de sa demeure sainte. Du haut du ciel, l'Éternel observe la terre pour écouter les gémissements des prisonniers, pour délivrer ceux qui sont destinés à la mort. Hey, ça n'allait pas bien pour eux autres. Mais ils ont mis par écrit leur prière pour que leurs petits-enfants découvrent la fidélité, la réponse de Dieu à leur prière. Laissez un héritage. Tout ce que tu découvres et que tu mets par écrit puis que tu relis, tu te donnes une chance de l'internaliser. C'est-à-dire que ce que tu intériorises, ce que tu mémorises, tu vas être capable de le verbaliser en tout temps. Puis à un moment donné, tu vas être assis avec quelqu'un, puis ce que tu as trouvé dans tes ténèbres, la lumière que tu as trouvée dans tes ténèbres, tu vas l'amener dans les ténèbres d'un autre. Ça ne sera pas le fruit de sa recherche de Dieu, ça va être le fruit de ta recherche de Dieu que tu vas amener ça sur un plateau, mon ami. Vous allez regarder ce que j'ai appris dans les larmes, qu'est-ce que j'ai appris dans le dépouillement et dans le mépris. Je te le donne. Regarde. Dans tes ténèbres. Mais si tu y as pensé une fois, tu l'as prié une fois, est-ce que tu l'as intériorisé dans le but de pouvoir le verbaliser? Ce que tu connais de Dieu pour qu'il puisse être utilisé dans les mains de Dieu, pour qu'il soit verbalisé en n'importe quel moment, il faut qu'il ait été intériorisé. L'écrit va te permettre de faire ça. C'est une manière de raconter. Puis finalement, c'est une manière de se rappeler continuellement le caractère de Dieu. De regarder ton histoire après et dire, c'est-tu quoi, on a été souvent obligé de recommencer? Hein? Ouais. Mais on a connu Dieu. On a plein d'histoires à raconter. Parce qu'on connaît Dieu. Dieu est en train de faire quelque chose de grand. Je veux savoir c'est quoi, puis je veux rentrer dedans. Deux, Dieu est en train de faire quelque chose en moi, puis je veux m'approcher encore plus de lui. Puis j'ai le goût de faire un journal pour cette raison-là. Amen. On va finir par la prière. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, parce que même si j'avoue devant tout le monde que c'est le besoin qui m'amène souvent à toi, je dois aussi reconnaître que le besoin m'éloigne de toi aussi. Parce que plutôt que de gérer ce qui ne va pas en moi, eh bien, je peux vivre comme une victime. Puis de dire, ah, regardez l'état dans lequel je suis. Et quand je fais ça, je peux attirer de la sympathie, mais je ne peux pas créer un meilleur futur, par exemple. Mais Seigneur, si je me mets à réfléchir et à regarder ce qui se passe dans ma tête, si je peux commencer à analyser que je suis responsable de comment je réagis dans ma vie aujourd'hui, bien, Seigneur, je deviens l'artisan de mon futur avec toi, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien faire, mais avec toi, je peux tout, Seigneur. As-tu montré à mes frères et sœurs comment tu prends quelque chose de brisé, comme le pain que tu as brisé à la Sainte-Cène, puis tu l'as donné à tes disciples, puis tu as dit, « Ceci est mon corps brisé pour vous. » Paul disait, « Les souffrances que Christ a faites, je les complète pour l'Église qui est son corps. » Peux-tu nous montrer, Seigneur Dieu, que tu veux prendre des gens brisés, des gens cassés, puis tu veux les donner au monde? Que ce n'est pas une fin en soi, Seigneur Dieu, que d'avoir des souffrances et des difficultés, mais que c'est un moyen d'aller à la plénitude, puis de te trouver, Seigneur Dieu, parce que c'est là que tu travailles fort, Seigneur. Au lieu qu'on s'éloigne de toi, Seigneur Dieu, qu'on s'isole comme une bête qui lèche ses plaies, Seigneur Dieu, quand elle souffre, Seigneur. Est-ce qu'on peut amener en lumière qui on est, totalement être authentique devant toi, puis que tu nous aides à penser avec toi. Comme disait le psalmiste dans le psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur la bonne voie et conduis-moi sur le sentier de la vie éternelle. » Merci, Seigneur, pour cette discipline que tu nous offres. Je n'ai pas vu un hamster ni un oiseau écrire sur ce qui se passait en dedans de lui. Mais toi, tu nous as donné la possibilité d'être conscients de nous-mêmes, Seigneur Dieu, puis tu nous as donné la responsabilité selon notre nature, Seigneur. Dans un monde où tout peut arriver, Seigneur, le deuil, les pertes, les devoirs recommencer continuellement, aide-nous à vivre responsables pour mieux recommencer. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, puis dans le fond, si vous pouvez rester à dîner, là, vous êtes les bienvenus. Puis si vous avez été béni par quelque chose, amenez-le au rang, ça va stimuler les discussions. Amen. Bonne semaine. Ah.
C'est une journée spéciale aujourd'hui. C'est la fête à Jean-Sébastien. Ben oui, on a cotisé là, ceux qui étaient présents dans la semaine là, pour y acheter un petit cadeau de fête. Ben oui, on veut te remercier, témoigner qu'on t'apprécie beaucoup. Puis que c'est ça. Puis que ben, personnellement, ça m'encourage de voir que tu te rends vulnérable avec nous parce que ça donne l'espoir qu'on n'est pas dans nos vulnérabilités. On a envie toutes de voir qu'on est normal, qu'il y en a d'autres qui en vivent aussi. Donc, c'est ça. Fais un petit cadeau pour te souligner ton anniversaire et dire à quel point toute l'Assemblée t'apprécie. Donc, souhaites-tu bonne fête? Bonne fête, Jean-Sébastien! Bonne fête, Jean-Sébastien! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête, Jean-Sébastien!
'Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio et vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web www.grâceetvérité.org.